Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 12h30. C'est l'heure du journal de la rédaction. Bonjour Ezequiel Fernandez.
Bonjour Romain, bonjour à tous. L'Aquarius lève l'ancre cet après-midi de son port d'attache Marseille. Le navire des SOS Méditerranée part pour une nouvelle campagne de sauvetage en mer. Pas question pour l'ONG, vous l'entendrez, de débarquer des migrants en Libye. Trois journalistes russes tués en Centrafrique, ils enquêtaient sur l'activité de compatriotes mercenaires et travaillaient pour un site d'information financé par Mikhail Khodorkovsky, le meilleur ennemi de Vladimir Poutine. Éric Biegala nous en dira plus. Le parti au pouvoir a largement remporté les législatives au Zimbabwe, ce qui peut raviver la tension dans le pays en attendant maintenant les résultats de l'élection présidentielle. En Allemagne, un vaste mouvement sur les réseaux sociaux baptisé MeToo, tout comme deux en anglais, traduit le grand malaise des habitants d'origine étrangère. Nous rejoindrons Pascal Thibault à Berlin. Les constructeurs automobiles français ont le sourire ce matin. Leurs ventes ont bondi en juillet dernier de 23% en un an. Une embellie que détaillera Jean-Marc Chardon. Et puis au menu de la grande table d'été avec vous, Romain de Bec-de-Lièvre.
Oui, en première partie, on va revenir sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le spectacle vivant. Et en seconde partie, on fera le portrait de l'écrivain Dominique Cigaud.
Et nous vous retrouvons à 12h45. L'Aquarius reprend donc la mer cet après-midi après 2 mois d'escale. Le navire des SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières appareillera de Marseille, son port d'attache, pour une nouvelle campagne humanitaire. Depuis 2 ans et demi, SOS Méditerranée affirme avoir secouru près de 30 000 personnes candidates à l'émigration vers l'Europe. L'ONG a profité de ces semaines à quai pour améliorer l'équipement à bord et aussi déterminer sa stratégie d'intervention, alors que le contexte a bien changé ces dernières semaines avec la fermeture notamment des ports italiens et globalement un durcissement européen dans l'accueil des migrants. Autre inquiétude, les ports libyens seraient désormais considérés comme des lieux sûrs de débarquement, ce que réfute totalement Frédéric Pénard, il est directeur des opérations des SOS Méditerranée.
La Libye n'est pas un port sûr et donc nous ne débarquerons pas des gens en Libye. C'est notre ligne de conduite depuis le premier jour et elle est renforcée encore aujourd'hui. Il faut se préparer à ce que le pire nous arrive, le pire étant de ne pas avoir un port sûr le plus rapidement possible, comme c'est le droit l'indiquerait. Et donc on ne veut pas être pris au dépourvu, on le doit aux personnes qui seront à bord et qu'on aura secouru. Et donc on s'est préparé en augmentant les capacités de nourriture, d'hygiène, de logement, les petits détails qui ne font pas du bateau quelque chose d'extraordinaire. Ça reste un bateau d'urgence et il est très très délicat. Il est même inacceptable que des personnes restent plus que nécessaire sur un pont brûlant en acier. Simplement, on a essayé de faire au mieux pour que si jamais des situations venaient à se reproduire de stand-by de l'Aquarius, nous soyons le plus près possible.
Directeur des opérations SOS Méditerranée, Frédéric Pénard, ajoutant que depuis 4 ans, au moins 15 000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. Beaucoup de questions ce matin après l'assassinat de 3 journalistes russes en République centrafricaine. Ils sont tombés lundi soir dans une embuscade à 200 km environ au nord de la capitale, Bangui. Les victimes travaillaient pour un site d'information en ligne financé par Mikhail Khodorkovsky, l'un des grands ennemis de Vladimir Poutine. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Ezequiel.
Et c'est bien ce qui peut faire soupçonner que l'affaire soit finalement russo-russe.
Oui, le journaliste Oran Djemal, le producteur Alexander Rastorgiev et le caméraman Kirill Radchenko ont été tous les 3 tués par balle dans ce qui ressemble à une véritable embuscade sur la route de Sibout, à environ 150-200 km au nord de la capitale Bangui. C'était lundi soir vers 22h. Cité par l'agence russe Interfax, des sources policières locales estimeraient que le mobile de cette attaque serait le vol. Rien d'impossible en vérité. Le territoire centrafricain est loin d'être sécurisé et les coupeurs de route, comme on les appelle, ne sont pas rares. Mais la personnalité et le reportage que préparait l'équipe de tournage russe laissent entrevoir de plus sombres motifs. Oran Djemal en effet, était un reporter très connu, aguerri, ayant couvert les conflits de Tchétchénie, de Géorgie ou la révolution libyenne, il y avait même été blessé, et plus récemment les opérations militaires russes dans le Donbass ukrainien. L'équipe était en République centrafricaine depuis 3 jours pour une enquête autour de la société de sécurité Wagner, manifestement présente en République centrafricaine depuis quelques mois. Wagner, c'est une société de sécurité privée, russe, employant nombre de mercenaires issus des rangs de l'armée de la Fédération et très proche du pouvoir de Vladimir Poutine. Les mercenaires de Wagner étaient présents en Crimée et dans le Donbass ukrainien en 2014. Ils sont surtout très largement présents en Syrie depuis 2015. En Centrafrique, ce sont les contractuels de Wagner qui constitueraient le gros des quelques 200 formateurs militaires arrivés à pied d'œuvre dans le pays depuis le début de l'année. Le documentaire qu'entendaient tourner les trois hommes était une commande du signe en ligne d'investigation Tessour, financé par Mikhail Khodorkovsky, vous l'avez dit, opposant notoire à Vladimir Poutine, un site d'information qui a déjà publié de très nombreuses enquêtes sur la corruption dans l'entourage du président russe. Et à vrai dire, ce ne serait pas la première fois que des journalistes russes se feraient tuer en enquêtant sur la société Wagner. En avril dernier, le journaliste d'investigation Maxime Borodin était défenestré de son appartement de Yekaterinbourg. Il venait de révéler les identités de plusieurs des mercenaires de Wagner opérant en Syrie.
Merci Eric Biegala. Au Zimbabwe sont tombés ce matin les résultats des élections législatives organisées en même temps que la présidentielle et les municipales. Ce sont les premiers scrutins de l'ère post-Robert Mugabe. Le parti au pouvoir depuis 38 ans décroche la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, et cela très loin devant le parti de l'opposant Nelson Chamisa, alors que celui-ci revendique, vous le savez déjà, la victoire à la présidentielle. Des individus armés ont attaqué un convoi transportant du matériel électoral. Ça s'est passé dans le centre du Mali. Ils ont provoqué une fusillade au cours de laquelle 4 soldats et 8 des assaillants ont péri. Les Maliens, vous le savez, ont été appelés aux urnes dimanche pour une élection présidentielle. On change de continent avec cette grosse panne d'électricité cette nuit au Venezuela. Caracas a été plongé dans le noir pendant plusieurs heures. Les coupures de courant sont courantes, si j'ose dire, au Venezuela, mais rarement de cette importance et de surcroît dans la capitale. La panne d'hier a paralysé le système de transport et même interrompu le congrès du Parti Socialiste, devant justement lequel s'exprimait Nicolas Maduro. Le président dénonce bien sûr un sabotage de l'opposition, mais il faut surtout retenir de son discours un début d'acte de contrition pour calmer l'opposition au Venezuela, y compris au sein de son propre camp. La correspondance de Marie-Ève Deteuf.
Une fois n'est pas coutume, Nicolas Maduro y est allé de son mea culpa. Je le cite, « Les modèles économiques que nous avons mis en place sont un échec. Nous en sommes responsables. » Le chef de l'État s'adressait aux militants du Parti Socialiste réunis en congrès à Caracas. Jusqu'à présent, le président et le gouvernement vénézuélien avaient toujours attribué la terrible crise économique que vit le pays à la guerre économique menée par l'impérialisme américain et ses laquais. Alors pourquoi ce virage dans le discours? Eh bien, la grogne monte dans les rangs du parti chaviste. Nicolas Maduro a décidé de dire tout haut ce que ses adversaires au sein du parti disent tout bas. L'opposition qui veut la démission de Nicolas Maduro ne croit pas à un virage. Pour faire face aux pénuries d'aliments, à l'inflation qui pourrait atteindre 1 000 000% cette année et aux pannes d'électricité, les mesures annoncées, elles, n'ont rien de nouveau.
Marie-Ève Deteuf à Bogota pour France Culture. En Allemagne, un nouveau hashtag fleurit sur les réseaux sociaux, MeToo, tout comme le chiffre 2 en anglais, qui rappelle bien sûr la campagne MeToo mondiale lancée contre le harcèlement et les violences sexuelles. Il s'agit cette fois-ci de permettre aux personnes d'origine étrangère en Allemagne de témoigner de toutes les formes de discrimination ou de racisme qu'elles subissent au quotidien. Tout est parti du coup d'éclat du footballeur d'origine turque Mesut Özil, qui a claqué la porte de la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, se disant victime de racisme, y compris de la part de la Fédération de football. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Ce que l'on peut dire, vous êtes en direct de Berlin, ce que l'on peut dire, Pascal, c'est que le phénomène prend singulièrement de l'ampleur en Allemagne.
Oui, effectivement, puisqu'après le lancement de ce hashtag, plusieurs dizaines de milliers de personnes l'ont utilisé sur les réseaux sociaux pour témoigner du racisme quotidien et des discriminations dont elles sont victimes. Il s'agit donc de personnes vivant en Allemagne et d'origine étrangère. L'initiative a été prise par un militant antiraciste, Ali Chan, un jeune de 25 ans, d'origine turque également, comme Mesut Özil, et qui trouvait que les polémiques contre le joueur de la Mannschaft ou l'ex-joueur de la Mannschaft avait été excessive. Donc depuis un énorme succès, avec énormément d'exemples concrets, certains évoquent le fait qu'ils n'ont pas obtenu un bail pour un appartement parce que leur nom ne sonnait pas allemand, ou même chose pour un travail, que sur les bancs de l'école on s'est moqué d'eux parce que en les interrogeant sur leur avenir, eh bien ils avaient répondu au prof qu'ils voulaient faire des études, et puis quelqu'un d'autre souligne qu'à la caisse du supermarché, lorsqu'il voulait laisser passer quelqu'un devant lui, cette personne lui a dit « Passez plutôt devant moi, je préfère vous avoir en ligne de mire ». Ce succès donc souligne aussi le malaise qu'il y a dans une partie des personnes d'origine étrangère en Allemagne. Une étude la semaine dernière montrait spécialement pour les personnes d'origine turque, et bien que leur attachement à leur pays d'origine était plus important qu'au début de cette décennie, ce qui témoigne également de ce mal-être qui existe.
Merci beaucoup Pascal Thibault, en direct de Berlin pour France Culture. En France, la dernière ligne droite avant les vacances parlementaires. La séance des questions au gouvernement cet après-midi devrait être, disons, tamisée au lendemain de l'épisode tumultueux des motions de censure. La session extraordinaire s'achève par l'adoption définitive aujourd'hui de 3 projets de loi concernant l'avenir professionnel, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la loi asile et immigration. Après les vacances, les députés reviendront en séance le 12 septembre, les sénateurs le 25. Et puis la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla poursuivra ses auditions en septembre. Elle estime que des doutes et des incohérences demeurent sur le rôle de l'ex-chargé de commission. Et la commission qui a entendu à l'heure qu'il est 19 personnes, dont Gérard Collomb, le ministre, et de hauts responsables de l'Élysée. Le marché de l'automobile en France, il vient de connaître un mois de juillet assez exceptionnel, faste, presque 19% de hausse sur un an pour les immatriculations de voitures neuves et une hausse encore plus forte pour les marques françaises, plus 23%. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour.
Dans un contexte économique, disons, un petit peu morose, c'est plutôt une bonne, sinon une excellente surprise.
Oui, le palmarès est très bon pour la plupart des constructeurs, mais ce que l'on voit, c'est que les marques tricolores occupent vraiment le haut de l'affiche, avec une hausse des ventes de 23% par rapport à juillet de l'an dernier, à une période où les marques françaises enregistraient déjà une pluie de bons résultats, avec des progressions à 2 chiffres. C'est donc qu'il y a eu accélération, à preuve sur les 7 premiers mois de 2018, les constructeurs français ont capté plus de 57% de ce marché. L'année dernière, c'est Renault qui faisait la course en tête. Cette année, léger avantage à PSA qui fait état d'une augmentation de ses immatriculations de 28%. C'est notamment par l'intégration de la firme Opel, laquelle émargeait auparavant chez General Motors. Renault qui, avec ses 5 marques, peut se féliciter de belles performances pour Dacia, mais aussi la marque Lada, commercialisée par Avtogaz, sa filiale russe. Alors on le voit, les constructeurs français ont des motifs de satisfaction. Les tensions commerciales, l'augmentation des prix de l'acier, ils les ont surmonté. Alors certes, l'abandon des programmes en Iran les affecte, davantage Peugeot d'ailleurs, mais ça reste pour l'instant secondaire, car en même temps, le marché automobile est porté partout par la croissance de la demande. Et ce ne sont pas les nouvelles normes d'homologation des véhicules en Europe qui risquent de leur porter ombrage à les entendre. Un marché qui, on s'en rend compte, se régénère surtout par la confiance des ménages.
Merci Jean-Marc Chardon. On embraye sur les résultats financiers d'Air France KLM, publiés aujourd'hui. Des résultats, et ce n'est pas une surprise, qui ont été lourdement affectés par les grèves du printemps. Coût évalué 335 millions d'euros. Toutefois, le groupe est dans le vert au deuxième trimestre grâce à la hausse du trafic passager. Nous y reviendrons d'ailleurs dans notre journal, notre édition de 18h. Depuis ce matin, nous, terriens, vivons à crédit, c'est-à-dire que nous avons consommé en 7 mois ce que notre planète peut renouveler sur un an. Constat d'une faillite que paieront forcément les générations futures. Un constat dressé par Valérie Gramont, elle est la directrice des programmes WWF, le Fonds mondial pour la nature.
Ce jour du dépassement, il recule d'année en année et nous vivons de plus en plus tôt à crédit. On surexploite notre capital naturel, on vit au-dessus de nos moyens écologiques, essentiellement pour 2 raisons. On surconsomme, on surproduit. Par exemple, 30% de l'alimentation va directement à la poubelle. On suremballe énormément, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé chaque minute dans la Méditerranée. Et puis, on dégrade les capacités de régénération de la nature. 30% des oiseaux ont disparu, 80% des insectes au niveau européen, alors que la solution est inclue, est intégrée dans la nature. Il suffirait de la laisser faire et de la préserver. Si on réduit de 50% les émissions de gaz à effet de serre, on recule la date de 100 jours. C'est énorme. Le gouvernement, pour inverser la tendance, doit réellement mettre de l'ambition dans ses décisions.
Valérie Gramont, la directrice des programmes WWF, le Fonds mondial pour la nature, au micro France Culture de Clarence Rodriguez. La tendance météo pour cet après-midi, vous le savez, 19 départements sont en ce moment en vigilance orange pour la canicule. Autant dire que le soleil pèse lourd, le soleil qui s'impose notamment du sud-ouest à la frontière belge. Les maximales resteront toutefois fraîches de la pointe bretonne à la mer du Nord avec 20 à 25 degrés. Il fera chaud partout ailleurs, 25 à 32 du Poitou aux Ardennes. 29 à 34, jusqu'à 35 degrés en plaine d'Alsace, jusqu'à 37 en vallée du Rhône et même 39 degrés cet après-midi en Provence. C'est la fin de cette édition, préparée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal, ce sera à 18h. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi.